VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Morgane Guiriec et Bagassi Koura.
Voilà, bienvenue à l'édition du mercredi 8 mars 2015.
À la une ce soir, ce carnage en Tunisie, 21 morts, 38 blessés. C'est le bilan de l'attaque contre le musée du Bardo à Tunis. Des hommes armés ont ouvert le feu sur les visiteurs.
République démocratique du Congo, le gouvernement annonce l'expulsion des 4 activistes sénégalais burkinabés du mouvement Yanamar et du groupe Ballet Citoyen.
Le président de la République vient de décider d'ordonner l'arrêt des poursuites contre les 4 sujets sénégalais et burkinabés qui ont toutefois été déclarés personae non grata en République démocratique du Congo.
Voilà le ministre Lambert Mende, ministre congolais de la communication.
Afritown en Sierra Leone, le président Ernest Bai Koroma a limogé son vice-président.
Au Soudan du Sud, après 15 mois de conflits armés, le président Salva Kiir ne veut plus reprendre son rival Riek Machar comme son vice-président dans le cadre d'un partage du pouvoir.
En Israël, Benjamin Netanyahou devrait former une nouvelle majorité gouvernementale. Côté palestinien, on se dit prêt à coopérer avec tout gouvernement acceptant un État palestinien.
Et puis l'armée syrienne affirme avoir abattu un drone américain suspecté d'espionner des forces. Dans moins de 10 minutes, la minute écho avec Jean-Roger Bion et le sport avec Nicolas Pinot. Mais d'abord, le journal.
21 morts, y compris des assaillants, 38 blessés, des touristes pour la plupart. C'est le dernier bilan de l'attaque contre le musée du Bardo à Tunis. Bilan annoncé par le premier ministre tunisien, Habib Essid. Des hommes armés ont ouvert le feu sur les visiteurs. Selon la télévision nationale tunisienne, l'opération de la police est terminée. Tous les touristes ont été évacués. Les détails de cette journée sanglante avec sa loi Jafari.
C'était une journée comme les autres au musée du Bardo. Un bus rempli de touristes venait de se garer devant l'entrée. C'est alors que des hommes vêtus d'uniformes militaires ont ouvert le feu sur les passagers, les ont ensuite pourchassés à l'intérieur du bâtiment. Un carnage, des Polonais, des Italiens, des Allemands, des Espagnols tombent sous les balles. Deux Tunisiens, un policier et un civil sont également parmi les victimes. Les premières informations parlaient de prise d'otages. Le premier ministre français en a même fait allusion ce matin. L'information est plus tard écartée par les autorités tunisiennes. La télévision nationale a annoncé la fin de l'opération de sauvetage et la mort de deux assaillants. Leur identité, toujours inconnue, aucune revendication pour l'instant. Coïncidence ou pas, cette agression intervient au lendemain de la confirmation par Tunis de la mort en Libye d'un suspect dans une attaque terroriste ayant donné lieu au meurtre de deux figures de l'opposition. Le musée Bardo, un palais vieux de 6 siècles, l'un des joyaux du patrimoine culturel tunisien. L'attaque d'aujourd'hui est indéniablement un nouveau coup dur au tourisme national, à peine remis des conséquences du printemps arabe.
Voilà, plusieurs médias parlent maintenant de 22 morts. Et en République centrafricaine, la MINUSCA déplore la mort de 8 personnes tuées ces derniers jours à Nganda, au nord, par un groupe armé non encore connu. La force onusienne assure que des mesures sont déjà prises pour sécuriser la population de cette localité face à des attaques du genre. Le point avec Félix Yepassis Zembrou.
Au cours de sa conférence de presse hebdomadaire, la force onusienne en Centrafrique, la MINUSCA, a déploré la mort de ces 8 personnes tuées dans une attaque d'hommes armés inconnus à Ngaoundaï. Selon le lieutenant-colonel Adolphe Manirakiza, porte-parole militaire de la force onusienne en Centrafrique, des dispositions sont déjà prises pour sécuriser la population.
La force de la MINUSCA déplore la mort de 8 personnes tuées à Ngaoundaï par des bandits armés qui oscillaient entre les frontières camerounaises, tchadiennes et centrafricaines. Elle rassure la population que tout est en train d'être fait pour démanteler ce groupe et prévenir des attaques du genre. La force de la MINUSCA tient à démentir l'information diffusée disant que la population de Ngaoundaï a averti les forces de la MINUSCA de la localité de l'arrivée de ce groupe de criminels et que la force de la MINUSCA n'a rien fait pour protéger la population.
La MINUSCA a par ailleurs assuré qu'au cours de ses opérations de sécurisation la semaine écoulée, elle a fait 6748 patrouilles aériennes et terrestres. 3 barrières illégales ont été démantelées sur l'axe Sibut, un bandit a été arrêté et un autre abattu sur le même tronçon. De son côté, la police onusienne a aussi mené plusieurs opérations de sécurisation à Bangui, Bria et Bambari. Des actions en coordination avec les forces de sécurité intérieure.
Le gouvernement de la République démocratique du Congo a annoncé l'expulsion prochaine des militants pro-démocratie sénégalais et burkinabés arrêtés ce week-end à Kinshasa. Le gouvernement congolais était soumis à des pressions internationales dans cette affaire qui illustre la crispation du climat politique en RDC à l'approche de la présidentielle de l'an prochain. Les militants arrêtés dimanche appartenaient à Yan Amar, acteur du combat contre un troisième mandat du président sénégalais Abdoulaye Wade en 2012 et au Ballet citoyen en pointe dans le soulèvement qui a chassé le président burkinabé Blaise Compaoré en octobre 2014. On écoute Lambert Mende, le ministre congolais de la communication et porte-parole du gouvernement.
Nous avons suivi la déclaration pleine de bon sens du chef de l'État sénégalais, monsieur le président Macky Sall. Il s'est refusé de porter un jugement sur le bien fondé ou non d'une démarche entreprise par un État souverain, la République démocratique du Congo, à l'intérieur de ses frontières, sur des événements qui se sont déroulés chez elle et qu'il s'est contenté d'appeler à la libération de ses compatriotes. Il va de soi que le président Joseph Kabila, notre chef de l'État, dans son souci de consolider l'unité et la cohésion du continent, ne doit pas souffrir de l'inconséquence de quelques irresponsables à réserver une réponse favorable à ce vœu exprimé par son homologue sénégalais, le président Macky Sall. Et en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution et les lois de notre pays, le président de la République vient de décider d'ordonner l'arrêt des poursuites contre les quatre sujets sénégalais et burkinabés qui ont toutefois été déclarés personae non grata en République démocratique du Congo par le gouvernement de la République. Ils sont donc maintenant occupés avec nos forces de sécurité à préparer leur expulsion du territoire de la République démocratique du Congo par le premier moyen possible vers leur pays respectif.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Voilà, hier, un hélicoptère d'attaque de la MINUSMA s'est écrasé au nord de Gao, c'est au Mali. Les deux membres de l'équipage sont tués. Des enquêteurs spécialisés de la MINUSMA et des Pays-Bas sont attendus à Gao pour déterminer les circonstances de cet accident. Correspondance de Boubacar Touré.
C'est donc hier, aux environs de 13h heure locale, que l'hélicoptère d'attaque Apache de la MINUSMA s'est écrasé en effectuant un atterrissage d'urgence à quelques 42 km au nord de Gao. Les deux membres de l'équipage ont perdu la vie lors de cet accident survenu pendant un exercice mené par le contingent néerlandais de la MINUSMA. Une équipe médicale a été immédiatement déployée sur le site, mais n'a pas pu sauver les membres de l'équipage, nous a confié un membre de la MINUSMA. Dans un communiqué déposé à notre rédaction, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MINUSMA, Hamdi Mundi, présente ses plus sincères condoléances au gouvernement des Pays-Bas et aux familles de ces deux soldats qui ont perdu la vie durant cet accident tragique. Des équipes sont déployées pour sécuriser le site. Des enquêteurs spécialisés de la MINUSMA et des Pays-Bas sont attendus à Gao afin d'établir les circonstances exactes de l'accident. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Conséquence de la victoire de Benjamin Netanyahou aux législatives en Israël, la présidence palestinienne se dit prête à coopérer avec tout gouvernement acceptant un État palestinien aux côtés de l'État hébreu. Peu nous importe qui sera le prochain Premier ministre d'Israël. Ce que nous attendons de tout gouvernement, c'est qu'il reconnaisse la solution à deux États, estime le chef de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, cité par l'AFP. À noter que Benjamin Netanyahou, Premier ministre sortant, quasi assuré de former le prochain cabinet, a d'ores et déjà fait savoir que les Palestiniens n'auront pas l'État auquel ils aspirent avec lui au gouvernement.
Et puis l'armée syrienne a affirmé mercredi avoir abattu un drone américain suspecté d'espionner ses forces, ce qui apparaît comme la première attaque de Damas contre des appareils de la coalition luttant contre le groupe État islamique. Selon l'agence de presse officielle syrienne, le drone américain a été abattu dans la région côtière de Latakia, une place forte de la communauté alaouite, la confession du clan du président Bachar al-Assad. Voilà pour le journal.
Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco ce soir avec Jean-Roger Billon.
La Banque mondiale débloque 52 millions de dollars pour la réhabilitation de l'aéroport de Goma en RDC. Ces fonds devront servir à remettre ce site à niveau après le désastre de l'éruption du volcan Nyiragongo en 2002. Ce réaménagement entre dans le cadre d'un projet d'amélioration de la sécurité de l'aéroport de Goma. Une partie de ces fonds va financer la réparation de la piste, l'aire de trafic et aussi l'aménagement de l'aérogare et du système électrique. Ce premier volet prévoit aussi la construction d'une nouvelle tour de contrôle et des équipements pour optimiser la navigation aérienne. Quelques 750 vols courts et moyens courriers de la compagnie allemande Lufthansa ont été annulés ce mercredi, affectant 80 000 passagers en raison d'une nouvelle grève des pilotes qui se prolongera demain jeudi sur les vols longs courriers. Les vols concernés par ce mouvement de grève, le 12e en un an, partent ou arrivent des aéroports de Francfort ou de Munich. Et le groupe informatique américain Microsoft a annoncé que son nouveau système d'exploitation Windows 10 serait lancé cet été dans 190 pays et disponible en 111 langues. La date précise du lancement n'a pas encore été divulguée. Pour la première fois, cette nouvelle version sera gratuite pour des équipements connectés, pour des échanges de données ou d'informations, comme des distributeurs de billets ou des appareils d'échographie. Microsoft avait précédemment indiqué que le futur système d'exploitation offrirait aussi la possibilité de se connecter sans mot de passe en utilisant des technologies biométriques comme la reconnaissance faciale.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Jean-Roger Billon.
Vous l'avez compris, c'est l'heure de sport sur la Voix de l'Amérique. Ce soir, c'est avec Nicolas Pino. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Bagassi.
Voilà, Cannes Junior, c'est en football et c'est au Sénégal. La première demi-finale est en cours.
Au stade Léopold Sédar Senghor, depuis 17h temps universel, s'affronte le Nigeria au Ghana. Pour le moment, 1-0 pour les Flying Eagles qui ont ouvert le score par Obinna Emmanuel Nwobodo.
Voilà, la Côte d'Ivoire victorieuse de la Cannes 2015 affrontera finalement la Guinée équatoriale et non la Guinée tout court. Un match amical le 29 mars, ce sera à Abidjan.
Le désistement de la Guinée tout court relève d'un problème administratif, a précisé la Fédération ivoirienne de football. Un autre match amical contre l'Angola est prévu le 26 mars, toujours à Abidjan.
Voilà, on pourrait aussi dire Guinée-Conakry. Et puis le...
On va parler du championnat d'Égypte Bagassi qui va reprendre le 30 mars, mais tous les matchs seront à huis clos. Le championnat avait été suspendu à l'issue des violences meurtrières devant un stade du Caire, c'était début février. Le gouvernement égyptien autorise donc la reprise du championnat. C'est ce qu'a indiqué le bureau du Premier ministre Ibrahim Malab dans un communiqué.
Et puis suite des huitièmes de finale de la Ligue des champions en Europe.
Coup d'envoi à 19h45 temps universel au Camp Nou, réception de Manchester City par le FC Barcelone. Vainqueur 2-1 à l'aller en Angleterre. Même scénario pour la Juventus de Turin. Après sa victoire à l'aller demain contre Dortmund. Et hier soir, la victoire d'Arsenal à Monaco 2-0 n'a pas suffi puisque les Monégasques s'étaient imposés 3-1 à l'aller à Londres. Monaco est donc qualifié pour les quarts de finale, tout comme les Espagnols de l'Atlético Madrid. Les Colchoneros ont arraché leur qualification en remontant leur handicap du match aller, puis en domptant le Bayer Leverkusen au tir au but. Une séance interminable et finalement, les Espagnols qui l'emportent 3-2.
Et pour terminer, quelques résultats de la NBA, le championnat de basketball nord-américain.
Et oui, les Spurs de San Antonio sont tombés de haut dans la salle des Knicks de New York, Madison Square Garden, 104-100 en prolongation. Mauvaise surprise aussi pour Memphis qui s'est incliné 105-95 à Détroit. Puis les Houston Rockets ont dû batailler pour venir à bout de Orlando, 107-94. Victoire de la Nouvelle-Orléans face à Milwaukee, 85-84. Et puis les LA Clippers contre Charlotte, 99-92. On rappelle actuellement la demi-finale en cours, la Coupe d'Afrique des Nations Juniors. C'est à Dakar, au stade de Léopold Sédar Senghor. Elle a évidemment oppose le Nigeria au Ghana, les Flying Eagles contre...
Vous avez un favori là?
Peut-être pour le moment les Nigérians qui sont les habitués, mais en tout cas pour le moment 1-0. On rappelle l'ouverture du score par les Flying Eagles qui ont ouvert le score par Obinna Emmanuel Nwobodo. Et on rappelle demain la deuxième demi-finale 100% ouest africaine et francophone entre le Sénégal, pays organisateur, et le Mali. Ce sera évidemment à suivre sur notre antenne.
Voilà, c'était le journal des sports avec Nicolas Pino qui nous parlait entre autres de la Coupe d'Afrique des juniors au Sénégal.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Voilà, Bagassi Koura et Morgane Guiriek en votre compagnie. Place maintenant au dossier du jour.
Attaque contre le musée du Bardo à Tunis. D'après les autorités, des hommes armés ont tué 19 personnes dans la capitale tunisienne, dont 17 touristes polonais, italiens, allemands et espagnols. Pour une réaction dans le continent, Idriss Fall, notre envoyé spécial à Niamey, a tendu son micro à Mahamadou Karidio, ministre de la Défense du Niger.
Ce qui se passe à Tunis est simplement inquiétant parce que ce monde est devenu un monde où chaque minute qui passe, il y a des actes qui sont posés par des terroristes, des islamistes, ils ont beaucoup de noms. Et ce qui se passe à Tunis nous inquiète parce que c'est quand même une démocratie qui est en train de s'épanouir. Et brutalement, elle fait face à des prises d'otages, à des tueries. Nous pensons que ce n'est pas une bonne chose pour cette démocratie.
Récemment, la même chose s'est passée à Bamako. Est-ce que vous pensez que Niamey est à l'abri de telles attaques ?
Aucune capitale au monde n'est à l'abri de telles attaques. Avant Bamako, c'était à Copenhague. Enfin, il y avait eu le 11 septembre aux États-Unis. Il y a eu l'attaque de Charlie Hebdo. Donc, vous voyez, le terrorisme est partout. Aucun pays n'est à l'abri parce que c'est justement un fantôme qui attaque les gens. N'importe qui peut être terroriste. Et c'est ça la difficulté de la chose.
Récemment, Difa a été l'objet d'une attaque de Boko Haram. On sait que votre gouvernement a pris à bras-le-corps cette affaire. D'abord, combien de soldats nigériens sont impliqués directement sur le terrain dans la lutte contre Boko Haram ?
Nous avons autour de 3000 soldats qui sont impliqués, plus un autre bataillon qui est impliqué avec les Tchadiens au Nigeria. Ce bataillon-là a pris dernièrement avec le Tchad. Nous avons des militaires tchadiens et des militaires nigériens qui sont, à l'heure où je vous parle, à Damasak. Ils ont pris Douchi, ils sont allés à Damasak et ils continuent leur progression.
Voilà, c'était Mahamadou Karidio, ministre de la Défense du Niger.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, gros plan sur l'allégeance de Boko Haram au groupe État islamique. Est-ce une réaction attendue de Boko Haram face à l'offensive des armées tchadiennes, nigériennes et camerounaises venues soutenir le Nigeria ? Qu'apportera cette alliance aux deux groupes djihadistes ? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum. Ce jeudi, à 19h TV.
Beaucoup de commentaires encore ce mercredi après l'annonce de Macky Sall, le président sénégalais qui concrétise une de ses promesses de campagne en réduisant son mandat présidentiel de 7 à 5 ans. La mesure doit encore être approuvée par le Conseil constitutionnel puis par référendum, mais les électeurs sénégalais pourraient bien aller aux urnes dès 2017 pour élire leur nouveau président. Alors que certains leaders en Afrique modifient la constitution pour rester au pouvoir, ce geste de Macky Sall est salué partout dans le monde. Pour une analyse, Nicolas Pino a joint le professeur Leonard Wenchokon de l'Université de Princeton, ici aux États-Unis.
Bon, en fait, c'est une très bonne nouvelle, parce que la tendance aujourd'hui en Afrique, c'est l'inverse. On pense que les chefs d'État veulent prolonger leur mandat, se représenter plusieurs fois, plus de deux fois, même dans le cas où il y a limite des mandats. Le fait de réduire de deux ans la durée du mandat, c'est une très très bonne nouvelle parce que ça va contre la tendance aujourd'hui dans certains pays, quoi, qui est plutôt d'augmenter le nombre de mandats présidentiels. Chercher au moins à augmenter le nombre de mandats présidentiels.
Est-ce que vous pensez que cette annonce peut avoir un impact alors que le débat est en cours, notamment au Burundi ou en République démocratique du Congo ?
Oui, parce que cela pourra servir à l'opposition, parce que c'est bon qu'il y ait un exemple dont l'opposition peut servir, dont les activistes peuvent servir, pour démontrer que même en Afrique, cela est possible. Ça permet de créer, disons, un soutien qui va au-delà du pays en question, sur le plan africain, en vue donc de lutter contre l'augmentation du nombre de mandats présidentiels dans ces pays-là, quoi, c'est-à-dire au Burundi et au Congo.
Le Sénégal, encore une fois, fait preuve d'exemplarité.
Oui, bien sûr. Donc le Sénégal, d'abord, sur beaucoup de plans, hein, sur la question de l'équité genre, sur la question de la tolérance religieuse, sur également donc la question de la viabilité de la démocratie. Donc le Sénégal donne l'exemple. Cela n'est pas surprenant parce que quand même il faut dire que c'est un pays qui était quand même, même pendant la période coloniale, l'un des pays sur le plan politique, sur le plan des droits humains, le plus avancé, quoi, avec une société civile très très active. Cela n'est pas du tout surprenant.
Voilà, c'était le professeur Léonard Wantchekon.
La Voix de l'Amérique au Sénégal sur Top FM à Dakar et Radio Al-Fayda à Kaolack.
Grève des fonctionnaires au Gabon. Depuis début février, les fonctionnaires gabonais ont entamé une grève générale illimitée pour réclamer des revalorisations salariales. Après plusieurs semaines de débrayage, on note un certain enlisement, selon Fridolin des Messa, un leader syndical de la fonction publique.
C'est le statu quo qui prévaut ici, parce qu'il y a deux positions qui s'affrontent maintenant. La position de la dynamique unitaire et la position revendiquée par la dynamique unitaire responsable. Je pense que nous devons aller vers le nouveau système de rémunération qui était un consensus issu du dialogue social d'Agondé et de tous les partenaires sociaux. Or, la dynamique unitaire pense qu'il faut aller vers une augmentation provisoire des salaires des agents, ce que la base n'accepte pas.
On peut parler d'une sorte de blocage.
Oui, effectivement, nous sommes dans l'enlisement total. Nous ne comprenons pas que les partenaires qui sont associés au travail qui doit aboutir à la mise en place des nouveaux systèmes de rémunération refusent de travailler afin de participer à son aboutissement le plus rapidement possible. Parce que le gouvernement dit, lui, il campe sur sa position en disant que le nouveau système ne peut être prêt au mois de juillet 2015. Or, nous pensons qu'au niveau de la dynamique unitaire responsable, on peut ramener l'échéance au mois d'avril-mai pour permettre à ce que les premières simulations soient faites rapidement. Donc, or, les autres pensent qu'ils sont d'accord pour juillet, mais ils veulent qu'avant d'arriver à juillet, le gouvernement procède à des augmentations provisoires de salaire. Or, au Gabon, on sait que ce qui est provisoire devient de facto définitif.
Comment fonctionne l'administration en ce moment?
À part l'éducation, qui est totalement bloquée, qui fonctionne très timidement, les autres administrations fonctionnent assez normalement, puisque le système de santé n'est pas atteint par le mouvement de grève, heureusement.
Et jusqu'où vous comptez continuer le mouvement?
Nous, au niveau de la dynamique unitaire responsable, nous pensons que nous devons déjà, il est l'heure que nous puissions mettre de l'eau dans notre vin. Parce que le gouvernement a accepté le principe d'une augmentation des salaires par la mise en place d'un nouveau système. C'est quoi le nouveau système? Parce que le système sur lequel on est payé renferme trop d'injustices et d'inégalités. Il ne permet pas à un agent qui a travaillé 40 ans durant d'avoir une retraite réconfortante. La pension retraite ici est misérable. Donc nous pensons que le nouveau système va permettre à ce que la pension retraite de nos agents retraités soit valorisée.
Voilà, c'était Fridolin des Messa, un leader syndical de la fonction publique.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
En Israël, Benjamin Netanyahou se retrouve ce mercredi en situation de former une nouvelle majorité gouvernementale. Le premier ministre sortant a mené son parti de droite, le Likoud, à une victoire haut la main aux élections législatives d'hier. Victoire qui a pris plus d'un de cours, surtout face aux sondages défavorables. Que signifie ce succès personnel de Benjamin Netanyahou pour les relations israélo-palestiniennes, mais aussi celles avec les États-Unis? Pour des éléments de réponse, Jacques Aristide s'est entretenu avec le chef du bureau de la VOA à Jérusalem, Scott Bob.
Ce qui a pris par surprise, c'était le fait que la veille du vote, les sondages publics démontraient le centre-gauche et le centre-droite coude à coude, mais l'espace de quelques jours, le Likoud a pu gagner 6 sièges sur la gauche. D'après certains analystes, ces votes sont venus de la droite même. Donc le Likoud a cannibalisé dans un certain sens la droite plus extrême pour démontrer cette grande victoire.
Cette éclatante victoire permet-elle à Benjamin Netanyahou de former une nouvelle majorité de droite et d'extrême droite?
D'après les analystes et les professeurs, etc., les Israéliens changent souvent de parti aux élections, mais rarement de bloc. Donc, si on analyse ensemble les votes du côté droite, c'est à peu près la même chose que du côté gauche. Donc, c'est-à-dire que c'est seulement la LICU qui s'est bénéficiée au profit de certains partis, dont celui du Premier ministre, du ministre des Affaires étrangères, Lieberman, et du ministre de l'Économie, Bennett. Mais il reste quand même les mêmes problèmes, et il reste aussi le problème du centre, c'est-à-dire que ni la gauche ni la droite a complètement assez de sièges pour vraiment prendre la main dessus. Alors, M. Netanyahu, s'il est désigné, devra solliciter l'accord de deux partis, surtout centristes, qui, eux, jouent un peu les deux côtés pour le moment.
Même avec un tout petit peu de prudence, quatrième mandat donc en perspective pour Benjamin Netanyahu, que va changer ce couronnement au niveau des rapports avec les États-Unis qui continuent d'espérer une solution à deux États dans le conflit israélo-palestinien?
D'après M. Netanyahu lui-même, les deux États, pour le moment, n'est pas une solution, n'est pas une option, à cause de l'option prise par les Palestiniens d'aller à la Cour internationale de justice et de commencer des pourparlers avec Hamas, qui ne reconnaît pas l'Israël et d'ailleurs cherche à détruire l'État juif. Donc, pour le moment, rien ne changera très vite. D'ailleurs, même avec la gauche au pouvoir, les choses n'allaient pas changer trop de toutes les façons. Ce qui pourrait changer, c'est peut-être que le courant qui ne passe pas entre M. Netanyahu et le président Obama peut-être verra un certain réchauffement, parce que des deux côtés, on ne voit pas l'utilité de continuer à ces prises de bras, prises de bec, comme on voit depuis ces derniers mois.
Voilà, c'était Scott Bob, le chef du bureau de la Voix de l'Amérique à Jérusalem.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, la Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse, voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, dans Universel. Au menu, International Music, Comédie, Country Music. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, La Voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le monde aujourd'hui sur VOA Afrique, un rappel de quelques grands points de l'actualité.
Carnage en Tunisie, au moins 21 morts et 38 blessés. C'est le bilan de l'attaque contre le musée du Bardo à Tunis. Des hommes armés ont ouvert le feu sur les visiteurs.
Le gouvernement congolais annonce l'expulsion des 4 activistes sénégalais burkinabés du mouvement Yanamar et du Ballet Citoyen.
À Freetown, en Sierra Leone, le président Ernest Bai Koroma a limogé son vice-président.
Au Soudan du Sud, après 15 mois de conflit armé, le président Salva Kiir ne veut plus reprendre son rival Riek Machar comme son vice-président dans le cadre d'un partage du pouvoir.
En Israël, Benjamin Netanyahou devrait former une nouvelle majorité gouvernementale. Côté palestinien, on se dit prêt à coopérer avec tout gouvernement acceptant un État palestinien.
Et puis l'armée syrienne a affirmé avoir abattu un drone américain suspecté d'espionner ses forces.
Cette libération qui fait du bruit au Kenya, un tribunal kényan a ordonné la remise en liberté sous caution pour raison médicale du chef présumé d'un vaste réseau de trafic d'ivoire.
Et l'armée nigériane dit n'avoir pas de nouvelles des 200 jeunes filles enlevées l'année dernière près de Chibok au nord du Nigeria.
À la mise en onde ce soir, Lionel Gaïma, présentation Morgane Guiriec et Bagassi Koura.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voafrique.com.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayegouya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.